Vous écoutez, on lit pour vous.
Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans? Un texte d'Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans la presse. À TVA et à Radio-Canada, la plupart des têtes d'affiche ont la cinquantaine, parfois la soixantaine. Ce n'était pas ainsi il y a 20 ans, voire il y a une dizaine d'années encore. Comme si le bassin de personnalités qui peuvent animer une émission à heure de grande écoute avait cessé de se renouveler. Lorsqu'on jette un œil à la programmation télé de la saison 2015-2016, la situation était tout autre. Les deux principales chaînes de télé confiaient encore les rênes d'émissions phares à des animateurs relativement jeunes et souvent peu expérimentés. À TVA, par exemple, Marie-Pierre Morin, qui avait alors à peine 29 ans, héritait de sa première émission à heure de grande écoute. À Radio-Canada, Jean-Philippe Vautier, 36 ans, faisait ses débuts en variété. Jean-Philippe Dion était aussi de cette nouvelle garde à l'époque. Signe que le milieu de la télé a pris de l'âge, l'animateur de 42 ans est encore parmi les plus jeunes têtes d'affiche du petit écran 10 ans plus tard. Je fais un peu partie de la dernière génération de gens qui peuvent se présenter comme des animateurs de métier. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent animer ont moins d'occasions de faire leurs preuves. Musique Plus, qui a été une école pour tellement de monde, n'existe plus. Il y a beaucoup moins d'émissions qui embauchent des chroniqueurs, observe l'animateur de Sucré Givré. J'en reçois encore des CV de gens qui veulent animer, dit Jean-Philippe Dion, mais la réalité, c'est que je ne sais pas quoi faire avec. Il n'y a plus tant d'opportunités pour eux. L'animateur et producteur s'est fait un point d'honneur de s'entourer de nouveaux venus comme collaborateurs à son émission Sucré Givré. Mais il ne se berce pas d'illusions. Mettre de nouvelles têtes en onde n'attirera pas davantage les jeunes qui ne regardent plus la télé traditionnelle. L'expérience d'abord. Il s'en trouvera toujours pour dire que les moins de 40 ans délaissent la télé traditionnelle parce que les principaux animateurs ont parfois l'âge de leurs parents. Or, faire ce calcul serait simpliste, selon Jean-Philippe Dion. S'il existe un lien entre les deux phénomènes, il est tout au plus indirect. La crise que vit le milieu de la télé a un lien avec le fait que l'on voit moins de nouvelles têtes, dans la mesure où il y a beaucoup moins de prises de risques qu'avant. Les budgets sont serrés, on a moins de jours de tournage, le temps en montage est compté. On peut beaucoup moins se permettre de travailler avec quelqu'un qui a moins d'expérience, avance Jean-Philippe Dion. On valorise aujourd'hui davantage l'expérience que le vent de jeunesse que peut apporter un animateur à une émission, explique Jean-Philippe Dion, producteur, entre autres, du Tricheur. Dans le processus pour trouver un remplaçant à Guy Jodoin à la barre du jeu questionnaire l'an prochain, c'est d'abord et avant tout ce facteur qui a été pris en considération. La décision s'est finalement arrêtée sur José Godet, dont la feuille de route est bien garnie. Déficit de notoriété. Les diffuseurs sont aussi moins portés à renouveler leur programmation. Il y a 20 ans, une émission de divertissement durait généralement quelques saisons avant d'être remplacée par une autre, même quand les cotes d'écoute étaient encore honorables. Aujourd'hui, les émissions qui fonctionnent bien sont pratiquement automatiquement reconduites. Infoman en est à sa 26e saison. Tout le monde en parle à sa 22e, alors qu'En direct de l'univers dure depuis 17 ans. Toujours avec les mêmes animateurs, intrinsèquement liés au succès de leur émission. il y a beaucoup de succès qui durent, ce qui explique en grande partie pourquoi il y a autant d'animateurs de plus de 50 ans. Par contre, quand je vois les nouveaux shows, ce sont quand même des gens plus jeunes. Je pense à Marie-Mée avec Big Brother Célébrité ou à Marc-André Grondin pour Hot Ones. Ça me dit qu'il y a quand même un renouvellement. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des gens dans la quarantaine que dans la trentaine. 40 ans, c'est pas mal le sweet spot en télévision maintenant, observe Charles Lafortune, qui entame sa 11e saison à la barre de la voix. L'animateur de 56 ans vient d'une époque où ce sweet spot était plutôt dans la trentaine, la tranche d'âge dans laquelle se situaient, il y a 20 ans, les grosses vedettes de l'heure comme Véronique Cloutier, Sébastien Benoît, Julie Snyder, Guy Jodoin, Julie Bélanger ou encore Mélanie Ménard. Bref, les mêmes qui sont aux commandes des principales émissions de divertissement deux décennies plus tard. C'est plus difficile aujourd'hui de trouver des trentenaires qui sont des points d'ancrage que tout le monde connaît, nous dit Charles Lafortune. De la même manière que quand on fait la voix, c'est beaucoup plus difficile de trouver de nouvelles chansons que tout le monde connaît. Il y a moins de références communes, mais les annonceurs cherchent encore des gens qui ont une grande notoriété, poursuit Charles Lafortune, qui porte également le chapeau de producteur. Moins d'intérêt à animer. Pour la saison 2025-2026, la moyenne d'âge des animateurs à Radio-Canada s'élève à 52 ans et à 53 ans pour TVA. C'est 10 ans de plus qu'à nouveau, qui ne s'est jamais caché de vouloir rejoindre un auditoire plus jeune, notamment avec Occupation double et ses deux animateurs dans la vingtaine. Le vieillissement des têtes d'affiche à la télé est un sujet vraisemblablement délicat pour les diffuseurs. Ni TVA ni Radio-Canada n'a accepté de nous parler. Le producteur Guy Villeneuve insiste pour dire qu'il ne note aucune réticence de la part des grands réseaux à embaucher des animateurs plus jeunes. Au contraire même, il se souvient que TVA était emballé à l'idée que Sarah-Jeanne Labrosse anime la compétition de danse Révolution produite par sa boîte Fairplay. C'est plutôt la comédienne, à l'époque dans la fin de la vingtaine, qui s'est longtemps montrée hésitante avant de finalement se laisser convaincre. S'il y a moins de jeunes qui animent à la télé, c'est aussi parce qu'il y a moins de jeunes qui veulent animer. Avant, tous les humoristes voulaient avoir leur émission. Ça leur permettait de vendre des tickets, de rester dans l'œil du public entre deux tournées. Ils en ont beaucoup moins besoin maintenant. Pour dire oui à un projet, il faut vraiment que le concept leur parle, souligne Guy Villeneuve. Méthodologie. Dans le cadre de cet article, nous avons analysé la grille horaire des trois grands réseaux généralistes durant l'automne et l'hiver 2025-2026, 2015-2016 et 2005-2006. Nous avons pris en compte l'âge des animateurs des émissions de divertissement. Cela inclut Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, mais pas les émissions d'information comme les bulletins de nouvelles, Enquête ou JE. Les émissions qui font partie du mandat de Radio-Canada comme Découverte ou La Facture n'ont pas non plus été prises en considération. Nous ne nous sommes pas non plus intéressés aux émissions diffusées en plein cœur de la journée, le week-end. C'était « Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans ?» un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans la presse.
sous les parcs, l'histoire des carrières de Montréal. Un texte de Caroline Monpetit, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. L'été, le long de l'avenue Christophe-Colomb, entre Villeray et Jarry, des tomates, des carottes ou des framboises s'épanouissent dans une rangée de jardins communautaires. Mais peu de gens savent que ces jardins sont en fait installés sur 28 mètres de profondeur remplis d'ordures qui ont jadis comblé les trous laissés par la carrière Villeray, devenu depuis 1960 un parc. C'est le destin qu'ont suivi nombre de parcs de Montréal, du parc Marquette au parc Laurier, du parc Maisonneuve au parc Rosemont et plus récemment au parc Frédéric Bach qui se déploie sur l'ancien site de la carrière Miron. Guy Gaudreau, professeur d'histoire retraité et guide touristique à ses heures, s'est longuement penché sur l'histoire des carrières de Montréal et vient d'en tirer un livre, « Une histoire des carrières de Montréal », paru aux éditions du Septentrion. Devant l'aréna du parc Villeray, il brandit la photo d'un concasseur trônant au-dessus d'un trou de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. C'est là qu'Aristide Dulon, un tailleur de pierre, perd la vie, écrasé par une grue. On peut encore voir la maison qu'il habitait, dont la façade de pierre a été montée à même les pierres de la carrière. C'était de la pierre de taille, une pierre de qualité, coupée à même la couche de calcaire de surface, plus rare qu'on ne pense en territoire montréalais. On sait que la pierre de calcaire de Montréal a été utilisée en Nouvelle-France pour fabriquer de la chaux dans des fours. Mais les maisons ont pour leur part longtemps été construites en simple pierre des champs, puis en pierre de maçonnerie et, dans certains cas, en pierre de taille. Le calcaire a aussi été broyé pour produire du mortier, du béton, du ciment et de l'asphalte. Guy Gaudreau estime qu'on a tellement mis l'accent sur la pierre de taille qu'on a oublié tous les autres métiers qui gravitent autour de l'extraction du calcaire. Celui des carriers, par exemple, qui enfoncent des aiguilles dans la pierre pour l'extraire, ou celui des charretiers, qui dégagent les productions des sites d'extraction. Dans le plateau Mont-Royal, il n'y a pas de pierre de taille, la couche de calcaire n'étant pas d'aussi bonne qualité. Ceux qui travaillaient dans les carrières, on les appelait les pieds noirs, peut-être, dit-on, parce que leurs pieds se salissaient de la poussière de calcaire. Des explosions dangereuses. Dès les années 1890, des explosions ont fait trembler le sol plusieurs fois par jour, au grand dam des résidents qui vivaient aux abords des carrières. Le 20 juin 1929, une couventine de 8 ans, Anita Landry, est atteinte par un caillou lancé par la dynamite. Dans l'année qui a suivi, la crise économique a eu raison de plusieurs carrières de Montréal. Laissés à l'abandon, ces trous dans la terre forment des lacs où les citoyens se baignent et se noient, relève Guy Gaudreau. C'est alors que la ville de Montréal, qui a exproprié plusieurs propriétaires, leur trouve un nouvel usage. À l'époque, quoi de mieux que ces immenses terres éventrées pour déposer des ordures dont on ne sait plus que faire? Sous l'administration municipale, les carrières deviendront des dépotoirs avec les désagréments que l'on soupçonne. Les camions à ordures entrent et sortent jour et nuit. Des développements domiciliaires sont construits aujourd'hui sur ces sites. En 2015, un reportage de l'émission La Facture à Radio-Canada relevait l'incidence de la possible contamination de ces terrains sur la vie de ceux qui y habitent. Après la fermeture des dépotoirs, plusieurs carrières deviendront des dépôts à neige. D'ailleurs, la carrière Francon, située près de l'autoroute métropolitaine, est encore aujourd'hui réservée à cet usage. Environ 40 % de la neige de Montréal y est déversée chaque année, au milieu du va-et-vient des camions jour et nuit. Désormais, c'est plus au nord, dans le village qu'on appelle encore Saint-Michel, que l'industrie de la pierre se développe. C'est là que Gérard Miron achètera une ferme pour 90 000 $ en 1948 pour faire une carrière qui en vaudra 50 millions de dollars 12 ans plus tard, après qu'on y aura construit une cimenterie de 30 millions de dollars, rappelle Guy Gaudreau. Comme les carrières situées plus au sud, la carrière Miron deviendra un dépotoir avant d'être transformée récemment en parc. À Saint-Michel, ça ne passe pas inaperçu, poursuit Guy Gaudreau. Les citoyens de Saint-Michel vont se plaindre du dépotoir. Ils demandent que ça cesse. La ville de Montréal rachètera finalement le terrain en 1984. Et l'actuel parc Frédéric Bach, qui recouvre 40 millions de tonnes de déchets, y a officiellement été inauguré lors du 375e anniversaire de Montréal en 2017. Là, où il y avait autrefois un trou de plus de 100 mètres, on peut désormais se promener sur un vallon. « Je trouve ça plutôt joli », confie Guy Gaudreau. C'était « Sous les parcs, l'histoire des carrières de Montréal », un texte de Caroline Montpetit, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.
Il n'y aurait pas suffisamment de pistes cyclables à Montréal, selon une étude. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. Lorsqu'elles sont annoncées, les nouvelles pistes cyclables à Montréal ne manquent pas de susciter des levées de boucliers de la part de citoyens qui craignent la perte d'espace pour les voitures. Mais dans les faits, ces infrastructures de micromobilité occupent une part très réduite de la chaussée, soulignent des chercheurs de l'Université McGill dans une étude rendue publique le lundi 18 août 2025. Doubler l'ampleur de ces infrastructures aurait donc peu d'effet sur l'espace alloué aux automobilistes, avance-t-il. À Montréal, l'espace de chaussée consacré aux voitures fait 42,8 km², soit 98% du total, contre un peu plus d'un km² pour les infrastructures de micromobilité, ou 2%. Les vélos, les trottinettes et les autres modes de transport léger sont pourtant utilisés pour 5% des déplacements, selon des données notamment basées sur l'enquête Origine-Destination de 2018. Et l'écart entre l'utilisation du vélo et l'espace qui lui est voué est encore plus grand dans certains arrondissements. Le plateau Mont-Royal arrive en tête. 22% des déplacements qui y sont effectués sont faits en micromobilité, puis suivent Rosemont-la-Petite-Patrie, 9,97%, et Outremont, 9,48%. À partir de ces données, les chercheurs ont élaboré un outil de mesure. L'indice d'allocation équitable des infrastructures, Equal Infrastructure Allocation, EIA, qui permet de comparer l'espace alloué par utilisateur des différents modes de transport. Des infrastructures insuffisantes. Ainsi, 9 arrondissements se retrouvent dans une position où leurs infrastructures de micromobilité sont insuffisantes compte tenu de la popularité des modes de transport légers. Les pires scores reviennent à Outremont et au plateau Mont-Royal. Ça permet de déterminer les endroits où l'espace pour la micromobilité n'est pas suffisant. Une note basse correspond aux arrondissements où il serait le plus efficace d'ajouter des infrastructures compte tenu du partage de l'espace entre voitures et vélos, explique l'auteur principal de l'étude, Daniel Rohm, doctorant au département de géographie de l'Université McGill. À l'opposé, les arrondissements de Pierrefonds-Roxborough, de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles obtiennent les meilleures notes en matière d'équité de la chaussée. Avec notre méthode, nous avons pu tester des scénarios. Nous avons découvert qu'il est possible d'améliorer les infrastructures cyclables sans nuire indûment aux automobilistes, car le déséquilibre existant est déjà important, explique M. Rohm. Ainsi, affirme-t-il, doubler la superficie des pistes cyclables et des espaces consacrés à Bixi aurait un effet limité sur les automobilistes. Ces effets seraient tout de même plus importants dans le plateau Mont-Royal et dans Ville-Marie, précise le chercheur. Un outil pour les décideurs. L'indice EIA pourrait permettre aux décideurs de mieux expliquer leurs projets d'infrastructures cyclistes aux citoyens et d'être mieux outillés pour répondre à ceux qui craignent la réduction de l'espace pour les automobiles, explique Daniel Rohm. Le chercheur souligne toutefois que l'étude n'a pas examiné l'effet de l'ajout d'espaces consacrés à la micromobilité sur les temps de déplacement des automobilistes. Par ailleurs, puisque seules les données de l'enquête origine-destination de 2018 étaient disponibles au moment de l'étude, il est possible que le nombre d'utilisateurs de modes de transport léger évoqués dans l'étude soit sous-estimé. La situation est possiblement pire pour les cyclistes que ce qu'indique l'étude, soutient M. Rome. Dans les dernières années, plusieurs projets de pistes cyclables ont suscité l'opposition de citoyens et de commerçants montréalais, dont ceux dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et plus récemment dans l'axe du boulevard Henri Bourassa. C'était « Il n'y aurait pas suffisamment de pistes cyclables à Montréal, selon une étude », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.
La peur et la peine des années plus tard. Une chronique de José Boileau publiée dans la presse du 19 décembre 2025. Des fusillades, encore, dans des lieux qu'on n'associe pas à la guerre. Une université à Providence, aux États-Unis, et une plage à Sydney, en Australie. On compte les morts et les blessés, mais qui peut estimer l'ensemble des gens s'atteint. C'est ce qui m'avait le plus frappé en écrivant l'ouvrage, ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes, publié aux éditions La Presse, qui commémorait le 30e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. L'esprit humain est si déroutant. Des drames éminemment publics se caractérisent aussi par le long silence de gens qui y ont été mêlés de près. Nos sociétés sont pourtant de plus en plus conscientes du choc post-traumatique. Mais nous sommes tellement pris par le moment présent, le soutien psychologique est d'ailleurs offert sur le coup, pas des années après, et tellement étourdis par les confessions qui inondent les médias et les réseaux sociaux, qu'on a toujours du mal à concevoir que certains choisissent de se taire. Mais derrière chaque personne qui prend la parole sitôt après un attentat, il y a toute une file d'anonymes qui garderont pour eux la peur vécue, le choc ressenti, le tournant d'avoir fui ou figé et même l'aide qu'ils auront réussi à donner. Pour Polytechnique, chaque nouvelle histoire recueillie 30 ans plus tard me donnait l'impression de lever le voile sur une part d'intimité qui s'exprime difficilement. Nous restons bien petits devant une situation d'exception, et qui a envie de se présenter petit face aux autres. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser écraser par les gestes d'éclat qui retiennent l'attention. À Sydney, Ahmed Al-Ahmed est maintenant considéré comme un héros pour avoir réussi à désarmer l'un des deux auteurs de la fusillade de la plage de Bondi. Il a néanmoins été blessé par des tirs. Un couple a aussi tenté de s'en prendre à un assaillant et cela leur a coûté la vie. De la même manière, Reuven Morrison, un grand-père de 62 ans, est mort sous les balles alors qu'il tentait de stopper les tireurs en leur lançant des objets. Ses réactions instinctives sont remarquables, mais elles ne peuvent pas être l'onde à laquelle se mesurer. La fuite est aussi un réflexe de survie, surtout devant l'incompréhensible comme à Bondi. La vidéo qui fait voir les 10 minutes de la fusillade est hallucinante. Les assaillants tirent calmement et méthodiquement 103 balles comme s'ils étaient à un stand de fête foraine, nullement perturbés par le hurlement des sirènes des voitures de police qui approchent. On n'arrête pas des gens de ce genre par simple bonne volonté. C'est d'ailleurs ce que nombre d'entre nous avons eu envie de dire à Stéphane Gay quand il s'est confié à Rima El-Khoury. Il était présent dans la première classe où le tueur était entré à Poly le 6 décembre 1989. Depuis, il a porté seul le remords, persuadé qu'il aurait pu arrêter celui-ci avant qu'il ne se lance dans son féminicide. Il est pourtant déjà énorme de simplement faire ce que l'on peut, et Stephen Gay a été le premier à appeler le 911. Chaque tragédie recèle de telles réactions de soutien. À Bondi, Saya, une adolescente de 14 ans, a ainsi répondu sans hésiter à l'appel d'une mère. Cachée sous un banc, elle en est sortie pour aller couvrir de son corps deux jeunes enfants. Ce faisant, elle a reçu une balle dans la jambe, mais les petits ont été sauvés. Mais parfois, même cette entraide reste discrète. Je pense ici au témoignage inédit d'une jeune femme lors du 10e anniversaire de l'attentat du Bataclan à Paris, souligné le mois dernier. Pour fuir la salle de spectacle, Charlotte, qui refuse de donner son nom de famille, s'était accrochée à une fenêtre au perché. À deux doigts de glisser, elle a demandé de l'aide. « S'il vous plaît, je suis enceinte. » Et une main, celle de Sébastien, l'a miraculeusement agrippée. Ils ont ainsi survécu à la chute possible, puis à la prise d'otage, à laquelle ils n'ont pu échapper. Mais il leur a fallu 10 ans pour en parler. Cela me ramène à ce témoignage diffusé lors du 30e anniversaire du féminicide de Polytechnique. En entendant les tirs, un responsable de la salle des serveurs avait caché une dizaine de personnes sous un faux plancher, tous se faufilant entre le filage des ordinateurs. Situation, dans ces circonstances-là, ça rentre, a expliqué Guy Brunel des décennies après les faits dans un témoignage recueilli pour « Ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes ». Il n'avait jamais parlé de son histoire. Que valait-elle face à un grand malheur? Sa valeur, c'est de faire contrepoids à l'horreur. Mais sans doute faut-il du recul pour accepter que la peur et la peine personnelle font partie de notre humanité commune et peuvent se partager. Fin de ce texte de José Boileau titré « La peur et la peine des années plus tard », publié dans la presse du 19 décembre 2025.